Pour la chronique nature, on retrouve aujourd'hui Pierre Maussan du CEN, le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne. Bonjour Pierre.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Le thème de la chronique d'aujourd'hui, c'est le changement climatique et les évolutions fondées sur la nature. Parce que le changement climatique, on va commencer par là, qu'est-ce que ça implique ?
Alors, changement climatique, on en entend beaucoup parler, notamment depuis qu'il y a eu la COP21 chez nous, à Paris. On connaît les effets globaux qui sont une augmentation de la température à la surface du globe, avec tout ce que ça peut entraîner sur la fonte des glaciers, etc., la montée du niveau des eaux. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile, nous disent aujourd'hui les climatologues, c'est de pouvoir avoir une idée de ce que quels vont être les effets locaux de ce changement climatique. Puisque, de manière paradoxale, mais peut-être que sur certains endroits, ça entraînera une augmentation ou une baisse des précipitations, une augmentation ou une baisse des températures.
Donc un dérèglement qu'il est difficile
C'est un dérèglement, voilà. C'est
de calculer.
Voilà le terme qui est utilisé, effectivement. Par contre, ce dont les climatologues sont quasi certains, c'est qu'on va avoir une augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes, c'est-à-dire les années de sécheresse, les années d'inondation, comme on a pu en connaître ces dernières années, ou des périodes de canicule ou au contraire des hivers très froids, ce qui auparavant arrivait de manière assez peu fréquente, la fréquence va augmenter. Il faut s'y préparer.
Alors ça peut avoir des impacts sur la nature. Alors on se dirait, c'est une chose, mais seulement ces impacts sur la nature, ils vont avoir aussi des incidences directes sur nos vies à nous.
Ben oui, sur une période de canicule, comme on a vu, on voit tout de suite en ville les difficultés que ça pose en termes de transport avec des infrastructures, des trains qui ont plus de mal à circuler. On voit évidemment les effets sur la mortalité pour les personnes âgées ou pour les gens malades. Pour les espaces naturels aussi, évidemment, tout cela peut avoir des conséquences. Alors à la fois sur la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces. Certaines espèces risquent de pas bien survivre. On a chez nous des espèces qu'on appelle glaciaires qui sont la trace des anciennes périodes glaciaires. Celle-là, si la température augmente, elle risque de disparaître d'Auvergne. Et puis, on peut aussi avoir un effet sur ce qu'on appelle les services rendus par les écosystèmes. C'est-à-dire que les écosystèmes nous rendent plein de services qu'on ne mesure pas toujours. Et si les écosystèmes sont en bonne santé, ils nous rendront de moins bons services. Et ça peut avoir un effet direct sur nos conditions de vie.
Alors, services rendus sur...
Les services rendus, c'est la qualité de l'air, par exemple. Si on respire un air de bonne qualité, c'est parce que les végétaux produisent de l'oxygène qui contribue à filtrer la pollution.
Oui, c'est pas des moindres services quand même.
C'est des choses qui sont qui
ont certains intérêts.
Voilà. Sur l'eau, c'est la même chose. Aujourd'hui, l'eau est en grande partie liée aux précipitations, mais après, elle est stockée dans les zones humides, elle est épurée par les zones humides. C'est la qualité de vie globale, j'allais dire, parce que quand on a aussi besoin de se promener, de faire de la randonnée, etc. Et tout ça, c'est lié à des paysages et de la biodiversité. Si demain, certaines forêts meurent parce que les arbres ne sont plus adaptés au changement climatique, on va perdre beaucoup de qualité de vie. Et puis, c'est toute la diversité de l'alimentation. Prendre qu'un exemple, la qualité des viandes et des fromages d'Auvergne est liée à ce que mangent les vaches et donc à la diversité des plantes dans les prairies.
Alors, quelle solution par rapport au paysage ?
Alors, ce que disent aujourd'hui les scientifiques, c'est qu'il faut favoriser au maximum ce qu'on appelle la résilience des écosystèmes. Alors, c'est quoi la résilience des écosystèmes ? C'est leur capacité à se reconstituer en cas d'événements extrêmes, leur capacité à encaisser, j'allais dire, tous ces mauvais coups du climat et à pouvoir continuer à fonctionner. Et donc, ils reviennent à un état d'équilibre. Et on sait aujourd'hui que certains milieux... Une année de sécheresse, ça va, mais si la sécheresse arrive tous les 10 ans, c'est supportable. Si elle arrive tous les 5 ans, ça devient plus difficile. Et une des pistes pour avoir des écosystèmes résilients, c'est des écosystèmes en bonne santé. Donc c'est éviter de poursuivre une artificialisation de nos paysages, une artificialisation de nos milieux, et puis conserver leur capacité fonctionnelle. Alors des exemples, par exemple par rapport à l'eau qu'on citait tout à l'heure, on sait que les réseaux de petites zones humides, de sources, de tourbières, etc., de petits marais en montagne, jouent un rôle important dans le stockage de l'eau en période de pluie, puis la restitution en période de sécheresse. Il faut conserver ces réseaux de zones humides, il faut arrêter le drainage des zones humides, parce que sinon là, on fragilise les écosystèmes. On a des plantes, des animaux qui aujourd'hui commencent déjà à se déplacer avec le changement climatique. Il faut conserver des corridors écologiques pour que ces espèces puissent bouger. Un autre exemple sur les forêts, aujourd'hui, il y a des interrogations sur... on a beaucoup de forêts, par exemple, en Auvergne, qui sont constituées de hêtres. On ne sait pas si le hêtre aura la capacité de résister au changement climatique dans 50 ou 100 ans. Et quand on est sur un arbre, l'échelle d'un siècle, c'est quasiment rien. C'est une génération, même pas une génération d'arbres. Donc on a plutôt intérêt aujourd'hui à avoir des forêts les plus naturelles possibles, avec une diversité d'essences forestières, de manière à ce qu'elles puissent encaisser ces changements.
Oui, alors des solutions qu'on connaît. Et puis, malgré tout, il faut quand même tenter d'atténuer atténuer les conséquences des changements climatiques.
Le changement climatique va avoir lieu, mais par contre, effectivement, les solutions fondées sur la nature, donc conserver les écosystèmes, ça peut nous permettre de les atténuer. On a cité le cas de l'eau tout à l'heure et de dire en période de sécheresse, il est important d'avoir des cours d'eau qui aient toujours de l'eau, parce que c'est ça qui nous permet notre alimentation. Et les cours d'eau qui ont de l'eau, c'est parce qu'il y a des zones humides en amont qui continuent à pouvoir les alimenter. On peut prendre un autre exemple pour aller complètement en pleine ville. Aujourd'hui, on a, avec l'augmentation des températures, de plus en plus de cas d'augmentation forte des températures autour de ce qu'on appelle les îlots de chaleur, donc dans des quartiers où il n'y a que du béton, du goudron. On sait, des études ont été faites, ont montré que la présence de végétal en ville permet d'atténuer ça, c'est-à-dire qu'il apporte une forme de climatisation par l'évaporation de l'eau. Et donc en mettant de la nature en ville, c'est quelque chose qui ne nous coûte rien, parce que c'est une climatisation qui est gratuite, climatisation naturelle, et qui nous permet d'atténuer les effets du changement climatique. Il faut penser aussi que de nombreux écosystèmes, les tourbières, les prairies naturelles, contribuent à stocker du carbone. Et plus c'est les forêts aussi, bien sûr, plus ces écosystèmes stockent du carbone, moins c'est du carbone qui part dans l'atmosphère. Et là, on contribue à atténuer ces effets du changement climatique.
Mais attention quand même aux fausses bonnes idées.
Oui, beaucoup de gens disent, mais en définitive, la technologie va nous sortir de ça. On met de la clim partout. Alors de la clim, il en faudra probablement dans des écoles, dans des hôpitaux, etc. Mais la clim, ça consomme de l'énergie. Donc plus on consomme d'énergie, plus on va augmenter les effets du changement climatique. Idem pour des barrages ou des solutions de construction de digues pour stocker de l'eau ou lutter contre les inondations. Il vaut mieux avoir des zones humides qui fonctionnent bien plutôt que vouloir créer des infrastructures qui coûtent cher, alors que là on a des écosystèmes qui fonctionnent tout seuls et qui tout
voilà,
ça se fait gratuitement.
Les écosystèmes en plus c'est des solutions sur du long terme, alors que là la climatisation, les barrages, etc., c'est une solution qui peut marcher à court terme, mais c'est un cercle vicieux.
Absolument, c'est de la solution long terme, c'est de la solution qui ne coûte rien ou très peu au plan économique, et c'est de la solution qui fait du plusieurs effets à la fois. Par exemple, si on reste sur l'exemple des tourbières, c'est à la fois du stockage du carbone, c'est une participation au cycle de l'eau, c'est de la biodiversité, c'est des activités touristiques parce que c'est les paysages de l'Artense et du Cézallier, donc derrière c'est de l'activité économique. Donc on voit bien tout l'intérêt qu'il y a à avoir plutôt ces solutions fondées sur la nature.
Et en plus c'est moins cher.
Et c'est moins cher.
Et c'est moins cher. Quelques exemples pour terminer, Pierre Maussan, avec les actions menées par le CEN, le Conservatoire d'Espaces Naturels d'Auvergne, que vous gérez.
Alors parmi les actions que l'on mène, par exemple, c'est la préservation de forêts. On achète des parcelles de forêts. On a plus de 400 hectares aujourd'hui de forêts qui ont été achetées par le Conservatoire et qui sont laissées en libre évolution. Et donc en laissant en libre évolution, on favorise la biodiversité, mais c'est aussi du stockage de carbone, puisque une partie est stockée dans les arbres, mais les deux tiers du carbone sont stockés dans le sol, et ça c'est un processus très lent, donc il faut le laisser. Il faut le laisser pouvoir se mettre en place. Idem sur les tourbières ou sur les prairies, en achetant et en préservant des prairies, une tourbière qui est en train de s'assécher, elle libère du carbone dans l'atmosphère, elle devient une source de carbone. Quand on la restaure et qu'on la remet en état au plan écologique, en repermettant la fabrication de tourbe, elle devient un puits de carbone et elle se met à stocker du carbone. Et donc on fait à la fois une bonne action pour l'eau, une bonne action pour la nature et une bonne action pour le climat. Et on aurait tort de s'en priver.
Et puis il y a aussi un autre exemple au CESO, pas loin des étudiants, sur le campus, avec une installation de verger.
Absolument, c'est un petit exemple local où on a remis en place un verger conservatoire avec des variétés locales d'amandiers et d'abricotiers et qui permet d'avoir un aménagement sur le campus avec des arbres qui va jouer ce rôle de climatisation naturelle qu'on évoquait et qui sera, je n'en doute pas, agréable pour les étudiants.
Ouais. Bon, on vous aura compris, Pierre Maussan, pour le changement climatique, pour lutter contre les conséquences du changement climatique ou l'atténuer, pensons aux solutions fondées sur la nature. Merci, à bientôt.
À bientôt.